Une émission au cœur du développement durable. Impact, c'est tous les mercredis sur Alger-Chaîne 3.
Minutes pile. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour pour ce numéro d'Impact. Nous sommes le mercredi 13 mai 2026. On va s'intéresser à quelque chose qui est assez important. L'Algérie, c'est le pays le plus vaste d'Afrique, près de 2 400 000 km². Dans ce pays vaste, il y a de la marge pour un développement, mais un développement durable. Comment arriver à voir le triptyque eau, énergie, environnement, à l'aune des bouleversements et des changements climatiques? Comment pouvoir avoir des petits villages, les voir grandir, grossir, en ayant un système d'alimentation en eau potable, un système aussi d'assainissement, un système d'énergie? Est-ce qu'en Algérie, on peut développer des petits complexes touristiques, des bases de vie, en hors réseau? Est-ce qu'on peut vivre dans des localités qui ne soient pas raccordées au réseau d'alimentation en eau potable, au réseau d'assainissement, et qui ne sont pas connectées aussi au réseau électrique et gaz? Est-ce possible? Tout cela, on va en parler en votre compagnie, bien entendu, jusqu'à 11h, et en compagnie de Monsieur le Habib Merabet.
Oui.
Alors, bonjour, vous êtes directeur général d'Enviro, Enviro Step.
Tout à fait.
Donc, environnement, fait. Step, c'est station d'épuration. Très bien.
Exactement.
Et on attend d'un moment à l'autre. Alger, c'est une capitale, c'est une très grande ville. Amin Rouadeli, directeur général de ER2, filiale du CDER, le Centre de Développement des Énergies Renouvelables, va arriver d'ici quelques minutes. Donc, on va commencer avec vous, Monsieur Habib Merabet, Enviro Step. C'est spécialisé dans les stations d'épuration, mais pas n'importe quelle station d'épuration, j'allais dire taille humaine, adaptée à ce qu'on pourrait appeler au réseau. Vous savez qu'on peut, vos dispositifs, vous allez nous l'expliquer, peuvent être installés dans une base vie, dans un complexe touristique, qui pourrait être niché du côté de Maïnis, du côté de Ténès, ou sur une côte, ou du côté de la corniche d'Idjélienne, sans avoir à polluer la mer, mais qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, qui sont très efficaces. À vous la parole.
Tout à fait. D'abord, bonjour et merci pour cette invitation. Donc, comme vous le présentiez, je suis le gérant de la société EnviroStep. C'est une société 100% algérienne qui représente un produit qu'on a importé ou un procédé qu'on a importé des États-Unis et du Canada. On travaille depuis 2010, disons, à peu près, pour essayer d'introduire cette idée. C'est une solution qui existe aux États-Unis depuis 1990. Donc elle existe depuis longtemps, elle est brevetée, maintenant elle n'est plus brevetée, hein, elle est dans le domaine public. Mais c'est une solution originale et singulière dans son mode de fonctionnement. Et vous savez, je dois faire d'abord une petite introduction.
Allez-y.
Dans le monde, dans le monde entier, on a dans la gestion des eaux usées, nous avons deux grandes catégories. Vous avez le collectif, qui est les grandes villes comme Alger, donc 50 000 habitants et plus. Et vous avez le semi-collectif ou le non-collectif qui est de 1 à 50 000 habitants. Donc une villa, par exemple, qui est perchée dans la montagne, c'est du non-collectif. Le semi-collectif, c'est un village de 1 000 habitants, 2 000 habitants, 5 000 habitants. Donc vous ne pouvez pas, pour les grandes villes, vous avez des technologies qui sont reconnues, comme la station d'épuration de Sidir Zeyn à Alger. C'est une boue activée, c'est une grosse usine avec du personnel, de l'énergie, des pièces détachées, des produits chimiques, ainsi de suite.
C'est une usine.
Une usine qui demande un budget permanent, débloqué par l'État, des salariés, exactement. Par contre, vous n'allez pas pouvoir, dans le monde entier, c'est déjà le cas, on ne peut pas débloquer beaucoup d'argent pour une ville, par exemple, de 5000 habitants, lui mettre la même technologie que pour une 100 000 habitants. Économiquement, ce n'est pas viable. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a pris connaissance de cette technologie. À l'époque, je travaillais avec des Canadiens. Et un des représentants, Benoît Boucher, c'est un Canadien qui est arrivé en Algérie avec un tuyau en plastique. Et il m'a dit, ce tuyau traite les eaux usées à presque 99%, mais sans énergie et sans maintenance.
Alors, un tuyau en plastique qui traite les eaux usées, sans énergie
et sans maintenance. Tout à fait. Donc, quand je voyais ça, je me disais, mais c'est quoi le cœur du système? Il m'a dit, c'est la nature, c'est le retour à la nature.
Vous parlez à un ingénieur, vous êtes ingénieur de formation.
Moi, je suis ingénieur génie civil, donc je gérais des projets de génie civil, routes, autoroutes, barrages et tout ça, de gros montants avec de gros risques. Et puis, vous savez, le génie civil, c'est des imprévus dès le matin. Vous vous réveillez à 6h du matin, vous avez un imprévu. Là, il me dit, c'est un processus naturel. Quand on me dit ça, moi, je me suis dit, si c'est naturel, ça veut dire que c'est durable, automatiquement. Et comme nous sommes un pays aride, semi-aride à l'époque, maintenant nous sommes
un pays aride, vers l'aridité.
Exactement. Je me suis dit, ça c'est l'avenir, puisque le problème des semi-collectifs ou non-collectifs, il est mondial. C'est-à-dire, vous allez en Europe, ils ont exactement le même problème qu'en Algérie, qu'en Tunisie ou dans n'importe quel pays dans le monde. Ils ont un problème. Les grandes villes, on les gère d'une manière qui est connue par tout le monde. Mais par contre, les petits villages, chacun essaye de trouver une solution. Nous, moi, dès la présentation de ce système, j'ai compris comment il fonctionnait. Je me suis dit, ça, c'est l'avenir pour nous. Et j'ai pris les devants et j'ai dit à ce monsieur de rentrer chez lui parce qu'il est impossible d'introduire une technologie comme ça dans des esprits qui ont toujours été formatés, entre guillemets, oui. Pour comprendre pour dire que le traitement des eaux usées, c'est une machine, c'est des électroniques, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Vous venez avec un tuyau en plastique, vous dites à quelqu'un, un responsable, je vais traiter l'eau, il va pas pouvoir vous croire. Et c'est tout à fait naturel. Donc j'ai dit à ce monsieur, rentrez chez vous, moi je vais m'occuper petit à petit de convaincre nos concitoyens et nos responsables que ça marche. Et on a réalisé des petits projets petit à petit avec l'ONA, l'Office National de l'Assainissement.
Un exemple, s'il vous plaît.
Le premier projet qu'on a réalisé, c'est grâce à une entreprise, un chef d'entreprise qui s'appelle Monsieur Chelrom, PDG de Amenhit.
Oui.
C'est une grosse entreprise hydraulique.
Aménagement hydraulique.
Exactement. Qui avait financé lui-même un centre pour les autistes à Bni Wurtilan, dans la wilaya de Stif. Et il avait construit en périphérie de la ville de Bni Wurtilan, ce qui fait qu'il était un petit peu isolé, il n'était pas raccordé au réseau de la ville.
Il était au réseau.
Exactement. Il ne pouvait pas exploiter ce centre pour les handicapés, pour les autistes, parce que il n'a pas pu avoir le certificat de conformité, puisqu'il ne traite pas ses eaux usées. Donc il m'a demandé, il m'a dit, il paraît que vous avez un système. Je lui ai dit, oui, mais vous n'allez jamais me croire.
Pourquoi?
Parce que il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de maintenance continue, il n'y a pas de production de boue, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de machine. Il y a rien du tout. Il y a des tuyaux, une fosse septique et des tuyaux qui sont enterrés et vous avez à la sortie une eau qui est traitée à 99%. Bah, il m'a dit non, c'est pas possible.
On comprend, c'est très difficile à croire, monsieur Merabat.
Tout à fait. Sauf que vous savez, dans le monde dans lequel on vit, vous savez, vous avez un portable, vous. Le portable, vous allez changer au bout de 2 ans, 3 ans, obligatoirement. Ouais. Ben, le monde actuel, le monde occidental, vous impose, m'impose à moi, à vous, à tout le monde, dans le monde entier, il nous impose à ce qu'on paye en permanence.
Et à une obsolescence programmée.
Exactement. La voiture, avant, on l'achetait, elle durait peut-être 30 ans, 50 ans. Aujourd'hui, elle dure 5 ans, 6 ans. Elle commence à se dépérir de partout. Donc, c'est le monde actuel. Donc, ce système-là, vous ne le connaissez pas parce qu'il ne sert à rien pour les gens en Occident. Il ne rapporte pas d'argent en exploitation. Vous avez 0 dinar en exploitation avec ce système-là.
0 dinar en exploitation.
0.
Ça veut dire qu'une fois
installé,
on va prendre l'exemple de
Beni Wurtila.
De Beni Wurtila.
Jamais nous avons effectué une maintenance à ce niveau-là.
Jamais.
Depuis 2014.
Ça veut dire que ça fait 12 ans
exactement.
Qu'il y a une mini-station, comment on appelle ça, c'est une
mini-station
d'épuration.
Tout à fait.
Qui fonctionne.
Tout à fait.
Et donc il y a des eaux usées, chargées,
tout à fait.
À l'entrée.
Exactement.
Il y a un système d'épuration
tout à fait.
Sans énergie.
Sans énergie.
Et à la sortie, vous avez de l'eau qui peut être utilisée
pour l'irrigation.
On est
déjà dans le premier niveau de réutilisation des eaux épurées pour l'irrigation selon la réglementation algérienne. D'office. Ce qui est extraordinaire.
C'est quoi le secret? Je veux dire, c'est pas la formule de M. Pemberton.
Non.
C'est quoi?
Ce système, il a été inventé par un Américain qui est aujourd'hui à la retraite et qui nous a joué, entre guillemets, un petit tour. Puisque nous avions un accord, c'était de développer ça dans le monde, et en particulier en Afrique. Et puis à terme, quand on atteint un certain niveau, on pourrait fabriquer ces équipements ici, puisqu'on atteint un certain niveau de demande.
Un ordre de grandeur.
En 2019, il a vendu son entreprise à son concurrent. Il a pris son pactole et puis il nous a oubliés. Mais c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Et donc, pourquoi? Parce que lui, il a pensé initialement, il s'est dit, tout système de traitement des eaux usées, toutes les technologies qui existent dans le monde, elles vont aller chercher à comment faire de manière électromécanique, comment rajouter de l'oxygène dans l'eau. Parce que vous savez, tout traitement des eaux usées a besoin de 2 phases principales. Vous êtes ingénieur, vous comprenez très bien de quoi je parle. Il y a une première phase où on fait appel à des bactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène. Et puis, c'est la fosse septique. Et puis, il y a une deuxième phase où on fait appel à des bactéries qui ont besoin de l'oxygène. Donc, si je regarde la station d'épuration de, par exemple, de Sidi Erzen, vous voyez, il y a un grand bassin et vous avez une machine qui tourne pour faire des bulles. Les bulles, c'est pour donner de l'oxygène aux bactéries qui vont faire le travail pour nettoyer l'eau.
Pour et donc, épurer
exactement.
De manière très efficace.
Dans ce système-là, ce monsieur, Dave Presby, il avait pensé, il s'est dit, tout le monde va dans une direction où elle est énergivore. Et lui, il s'est dit, mais comment ça se fait que nous avons de l'eau potable dans la nature? Effectivement, je vais vous donner un exemple. Nous aurons toujours de l'eau potable dans la nature, mais à condition de ne pas rajouter de la pollution, si vous êtes dans la nature. Vous-même, tout seul, dans une maison, même si vous rejetez un peu de l'eau usée, cette eau usée, vous la rejetez dans un petit ruisseau. Au départ de ce ruisseau, là où vous rejetez votre eau usée, vous prenez un échantillon, vous faites des analyses, elles sont non conformes. Il y a de la pollution. Vous allez 1 kilomètre plus bas, elles sont parfaitement potables. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la nature des bactéries, ce sont les fameuses bactéries dont j'ai parlé, et qui viennent de notre appareil digestif, elles viennent de la nature, et qui font leur travail. Donc lui, il s'est dit, ce monsieur, Dave Presby, en 1987-86, selon la réglementation américaine, qui disait, messieurs, celui qui fait par exemple une mine, il exploite une mine, il a 1000 personnes dans une base vie, vous prenez de l'eau d'un forage, vous le réinjectez dans le forage. Vous vous débrouillez. Débrouillez-vous.
Après traitement.
Sous-entendu, vous êtes obligé, vous ne pouvez pas réinjecter de l'eau polluée, c'est pas possible. Et donc lui, il s'est dit, puisque dans la nature, il y a un phénomène qui traite l'eau de manière naturelle, moi je dois comprendre ce phénomène-là. Il a essayé d'inventer une conduite qui permet d'oxygéner l'eau de manière passive. Or, comment on peut oxygéner l'eau de manière passive? Ici, j'ai une bouteille d'eau. Vous voyez, cette bouteille d'eau, elle est fermée. Quand je l'ouvre, n'importe quelle bouteille d'eau, n'importe quelle plante d'eau qui existe sur la planète Terre, je l'ai ouvert, elle est soumise à la pression atmosphérique.
Exact.
Je suis en train de vous parler, mais en même temps, la pression atmosphérique est en train de faire rentrer l'air jusqu'à 15 cm de profondeur. Cette conduite, elle fait 30 cm de diamètre. Donc, quand elle est remplie aux trois quarts, elle a une 15 cm, environ 15 cm d'eau à l'intérieur. Donc, elle est percée. Donc, tout le temps, elle est dimensionnée, le nombre de conduites est dimensionné de manière à avoir moins de 15 cm à l'intérieur de la conduite. Ce qui fait que la pression atmosphérique introduit l'air et l'oxygène dans cette eau de manière passive.
Sans apport d'énergie.
Aucune énergie, aucune.
Magnifique, magnifique.
C'est magnifique.
Et justement, Amine.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Monsieur Rouedeli, directeur général ou président directeur général de ER2, qui est une filiale du Centre de développement des énergies renouvelables. Alors, monsieur Lhabib Merabet, directeur général et gérant de EnviroStep, vient de nous parler d'un système révolutionnaire d'épuration des eaux usées sans apport d'énergie. Vous, votre spécialité, c'est l'énergie, mais à l'introduction, vous étiez bloqué dans la circulation. Il y avait beaucoup d'énergie.
Et j'ai suivi la discussion.
Voilà.
Avec...
Et l'Algérie, c'est le pays le plus vaste d'Afrique. Oui. Pratiquement 2 400 000 presque kilomètres carrés. Le pays doit se développer. Le pays a des projets structurants. L'un de ces projets, c'est les mines. L'autre, c'est les voies de chemin de fer. Les bases vie qui vont aller de Adrar, Insalah, Tamraset. On a besoin que des Algériens puissent, durant le chantier et après le chantier, puissent vivre. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin d'assainissement. Monsieur Merabet vient de nous prouver que, même sans énergie, il peut épurer les eaux, mais l'énergie est nécessaire à la vie. Qu'est-ce que l'on pourrait, est-ce qu'on pourrait vivre dans une ville, dans un village, au réseau, Monsieur Rouedeli?
Absolument oui.
Absolument oui.
Oui.
Ah, vous ne nous prouvez.
Il y a, on va dire, l'homme, il a besoin donc de l'eau, de l'énergie et de traiter ses déchets. Mais ces déchets-là sont en même temps une source d'énergie. Donc
très bien.
On peut, la planète Terre, donc elle vit isolée, donc elle crée son écosystème en interne. Et donc cet écosystème, c'est techniquement, c'est possible de le reproduire à petite échelle. Donc maintenant, il faut avoir tous les ingrédients. Le plus difficile, c'est l'eau. C'est pas l'énergie. L'énergie aujourd'hui, il y a plein de ressources, plein de moyens de produire l'énergie dans différents endroits sur la Terre.
Ça veut dire que si on vous met, monsieur Amine Rouedeli, ER2, Centre de développement des énergies renouvelables, donc vous êtes une entreprise, oui. Et monsieur Habib Merabet, qui est responsable d'une entreprise d'épuration des eaux, vous pouvez aller dans n'importe quel point du territoire national, isolé au fin fond du Sahara, et pouvoir donner vie dans cet espace à un village où il y a une base vie, je pense principalement au grand chantier du rail, du chemin de fer, ou des mines, ou de l'énergie, ou de l'or, ou ça peut être un petit village touristique. Qu'est-ce que l'on pourrait proposer comme vie dans une ville ou dans un village en hors réseau?
Sincèrement, c'est un rêve de réaliser ça. Donc,
rêve, mais c'est un rêve possible.
C'est un rêve possible, oui. C'est un rêve possible. On a eu l'opportunité, la chance de discuter ça avec plusieurs opérateurs.
Opérateurs économiques?
Exactement, oui. Donc sur la réalisation d'un modèle de base de vie, parce que c'est là où il y a plus de contraintes. Donc une base de vie qui va pas vivre complètement isolée. Donc, il va y avoir toujours un apport extérieur. Donc, il y a la question, on va dire, de la faisabilité économique. Mais si on prend une base de vie, on a l'énergie. Donc, on peut l'avoir à partir du solaire. Si on a un gisement de vent, donc on peut ajouter l'éolien. Une base de vie, elle produit des déchets. Les déchets, ils peuvent être convertis en biogaz, les déchets organiques. Donc c'est aussi une source d'énergie. On a c'est l'eau dont j'ai dit que il faut avoir une source d'eau, il faut avoir un puits. Donc ça, c'est difficile de produire sans apport propre. Donc et après le système dont vous parlez, donc on a eu la chance il y a plusieurs années donc de discuter, c'est clair que c'est un système très 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 intéressant qui ouvre qui donne justement des solutions à ce genre de situation. Il faut savoir que pas uniquement, on va dire là, ça met les nouveaux projets structurants, ça met l'accent sur ce besoin-là dans des zones très lointaines, mais n'importe quel chantier qui a besoin d'une base de vie, il est forcément, dans la plupart des cas, il est éloigné du réseau électrique. Donc là, que ce soit un chantier de routier, que ce soit un chantier pétrolier, un chantier d'agriculture, minier, donc peu importe. Donc généralement, c'est loin du réseau électrique. Et à 80%, en Algérie, il fonctionne au diesel. Donc et on peut remplacer le groupe diesel avec des sources renouvelables. Et ça commence, on va dire, les entreprises économiques commencent à prendre conscience de cette possibilité technique, et il y a de plus en plus d'opérateurs qui cherchent ces solutions.
Très bien. Alors on va essayer d'évoluer un petit peu dans le débat. On va prendre, si vous permettez, des exemples. On va prendre des petites localités isolées sur les hauts plateaux qui ne peuvent pas bénéficier de grosses enveloppes pour l'énergie ou alors pour l'assainissement. Comment ça se passe? On a sur un territoire 3, 4, 5 villages qui ne disposent pas d'un réseau d'assainissement et qui ont besoin d'une station d'épuration, mais ils n'ont pas le budget pour. Comment arriver à dimensionner une station d'épuration et surtout à évaluer les coûts? Est-ce que des mini-stations dont vous avez décrit tout à l'heure peuvent être aussi performantes qu'une grosse STEP, une station d'épuration? Vous travaillez sans énergie, est-ce que c'est rentable? Que faut-il faire? Demander plus d'argent pour faire une grosse station d'épuration ou alors installer des petites stations d'épuration dans chaque village et à la limite les raccorder entre elles?
En fait, tout dépend de chaque cas a ses particularités, mais en général, si vous télécharger le rapport de la gestion des ressources en eau des Nations Unies de 2017, à la page 4 et 5, vous allez trouver un paragraphe qui concerne, c'est un résumé des experts dans le monde entier, qui dit quoi? Qui dit que quand vous décentralisez le traitement, c'est-à-dire que vous faites plusieurs petites stations d'épuration, vous économisez jusqu'à 50% de budget sur l'investissement de base.
50%.
Ouais. Ça ne tient
vous
pas.
Divisez par deux.
Oui, ça ne tient pas compte des solutions comme celle-là, hein, qui ne consomment pas d'énergie. Ça ne tient pas compte de ça.
Ça c'est
en général.
Avec consommation d'énergie.
Exactement. Donc, le fait de décentraliser, ils disent, dans ce rapport, c'est 50%. Maintenant, en exploitation, ils disent c'est de 25 à 50% aussi, de mémoire, ou 30%, quelque chose comme ça, en exploitation. C'est-à-dire, vous économisez aussi sur le long terme. Maintenant, pour revenir à votre question... On a déjà vécu ça, par exemple, dans la région de Tolmin. La région de Tolmin, c'est une... exactement, entre Timimoun et Adrar. C'est une région, c'est le futur El-Oued. El-Oued, vous avez vu le développement agricole qu'il y a, mais à Tolmin aussi, il y a un très, très grand développement. Il y a un bureau d'études, le CETIF, qui est un bureau d'études étatique à CETIF, qui avait un marché, par exemple, d'étudier le Qsoran ta' Tolmin. Qsoran ta' Tolmin, c'est 28 Qsor.
28.
Donc 28 villages,
ouais.
Donc éparpillés dans le désert. Vous voyez, c'est l'usage et les idées initiales qu'on a, c'est qu'en général, dans le monde entier, hein, pas seulement en Algérie, on attend à ce que les choses se dégradent pour que la population commence à dire oui, et que ça devienne un certain budget pour qu'on puisse demander, pour que l'État bouge. Pourquoi? Parce que nous sommes formatés pour des grosses installations. Il n'y a pas d'autre. On ne va pas aller.
C'est une manière de voir le développement. C'est une manière de voir le développement, mais qui ne soit pas durable. C'est pas du développement durable.
Non, du tout.
On est arrivé à un certain stade de confort où il faut avoir eau, énergie et assainissement.
Exact. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend à ce qu'il y ait beaucoup plus de population pour mettre une station d'un certain niveau. Et donc, il faut mettre de l'argent. Mais ça devient, dans le cas de Talmen, les villages sont éloignés le plus près de l'un d'un autre. Ouais. C'est 7 kilomètres.
7 kilomètres.
Donc, vous voyez, en fait, vous avez 28 villages éparpillés qui sont éloignés de minimum 7 kilomètres l'un de l'autre. Et que, c'est quoi l'idée initiale? Vous prenez n'importe quel bureau d'études, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, oui, ben, on va faire au chef-lieu, à 7-10 kilomètres du chef-lieu, on va mettre en place une station. Pourquoi à 7 kilomètres ou 10 kilomètres? C'est à cause des odeurs. Parce que d'habitude, les stations d'épuration, il y a des odeurs, surtout dans le sud.
Ça ne sent pas la rose.
Exact.
Donc, il faut éloigner ça.
Donc, on l'éloigne. Donc, déjà, elle est éloignée. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Tous les villages, là, ils ont un petit réseau pour collecter les eaux usées. Et puis, on pompe ça sur des kilomètres et des kilomètres vers la station. Donc, ce qu'on
Ça nécessite de l'énergie.
Exactement. Ce qu'on essaye de faire avec les bureaux d'études, c'est pour créer le choc, qu'est-ce qu'on dit aux bureaux d'études? Donnez-moi le budget, par exemple, d'un tronçon de tuyau. Un seul, le plus petit. Exactement.
Les fameux 7
kilomètres. Le plus petit. Prenez le plus petit, donnez-moi le budget. C'est 300, 400 millions de dinars. 40 milliards de centimes. Moi, ma réponse automatique, c'est, monsieur, avec ce budget-là, je fais 4 sur 28. Ça y est, vous les enlevez on peut plus les raccorder. Ils sont autonomes.
Équation.
Exactement. On parle plus de la même chose. Là, on divise là, dans le cas de Talmin, on a divisé le budget par 15. Pas par 2, pas par 3, pas par...
Vous pouvez le répéter?
15.
Dans le projet Talmin, relié 28
est
relié.
Exactement.
Pour une station d'épuration commune, ou alors individualiser les systèmes d'épuration.
Exactement.
Et vous avez divisé le budget par 15.
Par 15. Juste le fait de décentraliser. Bien sûr. Bien sûr.
Et ça a été réalisé.
Non, c'est en cours, bien
c'est
sûr.
C'est en cours.
Bah, écoutez, ça demande du temps. Il faut d'abord le bureau d'études. On a fait avec lui un petit jeu, c'est de lui dire donnez-moi le budget d'une conduite. Il nous donne. Et on lui dit on va faire pour lui. Ça y est, ça crée un choc. Après, il nous demande de faire toute l'étude complète pour chaque sœur. Donc chaque sœur a son petit réseau, une petite station, et on réutilise l'eau pour l'irrigation ou dans une seguia ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que ça devient autonome, ça devient contrôlable. S'il y a un problème à une station, les autres, les 28, elles fonctionnent encore. Alors que s'il y avait... C'est ça qui est... Et budgétairement, c'était un chef de daïra, celui de Sherwin. Quand on lui a présenté les deux solutions, il n'y a pas photo.
Et ça veut dire qu'au niveau de chaque ksar, non seulement il règle son problème d'assainissement, mais il est en autonomie puisque l'eau... assaini, épuré localement, va rester localement. Alors que si on devait relier tous les réseaux, aller sur Aqsar et c'est tout.
Exactement.
Votre réaction, Amin Kouadri, est-ce que, en termes d'énergie, le photovoltaïque que vous maîtrisez très bien, on peut faire la même chose? Autonomiser, parce que lorsqu'on voit dans le sud, l'Algérie, c'est l'état social par excellence. Mmh. On peut voir sur des centaines de kilomètres. Parfois, c'est hideux. Très franchement, le développement, c'est bien. L'électricité, le confort, c'est bien. Mais voir des pylônes sur des centaines de kilomètres, c'est pas beau à voir. Et est-ce que c'est les mêmes thématiques, les mêmes budgets qui peuvent être divisés? Monsieur Merabat nous dit par 15, je ne sais pas. Quel est votre ordre de grandeur?
Pour l'énergie, pour le solaire, c'est un peu différent. Parce que en Algérie, la problématique première, c'est le coût de l'énergie qui est, très très bas.
L'énergie est gratuite, n'hésitez pas à vous souvenir. Le kilowattheure dans les grandes villes, le kilowattheure est produit à 12 dinars, il est cédé à 1,17.
Absolument.
Produit à 12, cédé à 1,17.
Absolument. Donc hier, je rentre de Mauritanie. Pour la foire de produits des services algériens à Nouakchott. Là, on voit la différence. voit carrément la différence.
L'énergie n'est pas aussi subventionnée qu'en Algérie.
Elle n'est pas du tout subventionnée. Donc là, c'est une station, on va dire, solaire. Et la demande, elle est de partout. Donc, les particuliers, les agriculteurs, les industriels, tout le monde cherche à faire du solaire parce que tout simplement, un retour sur investissement, il est avec batterie, il est à 3 ans.
3 ans.
3 ans.
En trois ans, amortir
l'investissement pour une centrale de 25 ans. Donc, wow. Amortir en 3 ans et vous avez 22 ans de l'électricité gratuite. Ce qui n'est pas le cas parce que quand on divise.
Alors, est-ce qu'on peut, excusez-moi, monsieur Bouedri, est-ce qu'on peut s'arrêter un instant pour reprendre? Vous étiez en Mauritanie, ça fait à peine 48 heures. On vous a proposé. Où vous avez proposé de pouvoir réaliser une station solaire photovoltaïque avec un petit stockage d'énergie. Cette station solaire photovoltaïque avec stockage d'énergie peut être amortie en 3 ans seulement. Et cette station solaire photovoltaïque avec stockage d'énergie a une durée de vie
de 25 ans minimum.
Ça veut dire que vous allez devoir amortir ça en 3 ans et pendant 22 ans,
vous avez l'électricité gratuite.
Magnifique. C'est aussi magnifique que le projet de Monsieur Merabet.
Absolument. Mais parce que l'électricité, elle est vendue à son prix réel.
D'accord.
Donc, avec les différentes crises énergétiques dans le monde, comme celle qu'on vit aujourd'hui, nous, on ne le sent pas. Donc, vous voyez cette chance qu'on a.
Durée de vie, 25 ans, amortie en 3 ans.
Absolument.
Et 22 ans.
Gratuite. Oui.
À la barakatillah.
Exactement. Et ça s'arrache.
Ça s'arrache.
Ça s'arrache.
Et c'est l'Algérie qui propose ça et c'est l'Algérie qui peut réaliser cela.
On va dire, on est parti pour ça et je peux vous dire qu'on a.
C'est ER2.
Absolument, oui.
Qui est une entreprise algérienne, filiale du Centre de développement des énergies renouvelables.
Absolument. Donc,
sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur.
Exactement. Ça.
Bravo.
Donc, on est parti justement parce qu'on savait que le marché est porteur. On avait déjà une analyse de marché. Et comme je vous disais, vous voyez la différence, elle est frappante. Parce que tout simplement, l'électricité et le gasoil. Parce que quand on parle d'agriculteurs et certains industriels, donc ils fonctionnent au groupe diesel, et ça coûte extrêmement, extrêmement cher.
Donc, j'ai besoin de comprendre quelque chose, M. Rouadéry, vous qui venez du secteur de la recherche, mais aussi du secteur de l'entreprise, puisque vous êtes à la tête d'une entreprise, ER2, on rappelle sous tutelle du Centre de développement des énergies renouvelables. Quand on voit la télévision, aux 20h, on voit souvent électrification rurale en milieu saharien. Des fermes sont raccordées sur parfois 60, 70, 80 km à l'électricité. Et là, vous nous dites que vous allez en Mauritanie avec une technicité quasiment 100% algérienne pour faire le contraire. Pourquoi est-ce que vous pouvez le faire en Mauritanie et pas en Algérie? Est-ce que parce que l'énergie électrique est pratiquement gratuite en Algérie, et est-ce qu'il n'y a pas lieu d'avoir arrangé les choses, de produire des projets pilotes en Algérie et de doter des fermes, pas des fermes pilotes, des fermes tout court, des exploitations agricoles avec des énergies renouvelables?
On va dire, premièrement, c'est-à-dire quand on regarde le marché algérien dans sa globalité, on a d'un côté le coût de l'énergie et on a aussi une électrification, un record rare dans
mondial.
Le monde. Exactement, de
98%. 98%. Exactement. L'Algérie, c'est l'un des, vous le confirmez, c'est l'un des pays les plus électrifiés.
Absolument.
Beaucoup plus que beaucoup de pays dits développés à l'image du Canada.
Absolument, absolument. Donc à 98% de couverture de réseau électrique. Donc là, on va dire, mis à part les marchés de niche, donc dont on parlait, les bases de vie des exploitations agricoles, parce que on va dire là, ça rentre dans le calcul les endroits qui sont pas encore raccordés, ça rentre dans le calcul le coût de raccordement. Donc là,
très bien, ouais.
Donc là, on va comparer le coût de l'énergie avec plus le coût de raccordement versus une centrale solaire. Donc là, on peut avoir une rentabilité. Il y a aussi, on va dire, tout ce qui est, quand on parle de base de vie, ça rentre aussi l'aspect de la mobilité photovoltaïque, la mobilité solaire. Parce qu'il y a beaucoup de bases de vie qui ne sont pas là pour 25 ans.
Bien
la,
sûr.
La durée de vie d'une centrale solaire, elle est pour 25 ans. Donc là, nous, on développe, on travaille sur des projets de mobilité solaire où la...
C'est quoi la mobilité solaire pour nos auditeurs?
C'est une centrale solaire photovoltaïque mobile, donc où vous installez pendant une année, pendant deux ans, donc le temps de finir votre chantier. Après, vous la dépliez, vous la déplacez avec vous pour l'installer dans le prochain chantier.
C'est du nomadisme absolument énergétique renouvelable où chez l'Arab Rahala on a les transhumances.
Absolument.
Et donc il y a de la transhumance énergétique.
Absolument.
C'est possible.
Absolument. Donc c'est on va dire c'est très facile, c'est très faisable à petite échelle. Donc quand on a
quand on dit à petite échelle, c'est pour quel dimensionnement?
3, 4, 5, 10 kilos, donc ça c'est pas
10 kilowatts, oui, c'est possible.
Oui, maintenant c'est un panneau qui fait 0,7 kilos.
Quand même.
Donc 10 kilos, c'est une douzaine, maximum une quinzaine de panneaux. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, quand on parle à un demi méga, à un méga, là, donc on change d'échelle. Donc on a des centaines ou voire des milliers de panneaux solaires. Donc là, il faut, une vraie ingénierie et un vrai développement de ces solutions-là. Généralement, c'est des conteneurs qui sont déployables. Donc,
d'accord,
vous avez une solution qui est dans un conteneur que vous déployez. Après, vous la récupérez.
Si c'est magnifique. Et justement, il parle d'ingénierie et cette émission a été faite un 13 mai parce que le 13 mai, c'est la journée mondiale de l'ingénierie pour l'avenir. J'ai en face de moi deux ingénieurs, l'un dans l'assainissement et l'eau et l'autre dans les énergies. Ça vous interpelle. C'est possible de donner de l'espoir aux jeunes Algériens qui rêvent d'aller ailleurs, mais qui peuvent, grâce à l'ingénierie pour l'avenir, occuper ces vastes territoires d'Algériens et produire.
Bien sûr, mais il faut d'abord croire en l'Algérien.
Nous, il faut croire en l'Algérien.
Ben bien sûr, avant tout. Nous, notre problème, c'est que quand un Algérien présente une solution, on a de la difficulté à le croire.
Parce que c'est historique.
132 ans de colonialisme, ça a quand même des effets sur esprits.
Ça marque au fer.
Exactement. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à développer le système en Algérie, j'ai demandé à mes amis canadiens. Oui, à mes amis canadiens et américains, je leur ai dit, installez-vous d'abord en France. Ils m'ont dit pourquoi? Ben, parce que il faut que j'ai un agrément français. Ils m'ont dit pourquoi? Mais parce que nous, on est formatés que les choses viennent de France. C'est tout à fait normal, c'est humain.
Mais il faut que ça change.
Exact. Ben, ça a changé maintenant.
Ça
n'a aucun problème. Vous avez plein d'Algériens qui vont en Indonésie, en Malaisie, au Japon, n'importe où. Donc il n'y a pas de problème. Mais on a cette difficulté. Il faut d'abord que pour que les jeunes, il faut qu'on croie entre nous.
Oui, mais c'est un impératif.
Tout
les jeunes, l'Algérie a une démocratie. C'est une démocratie, bien sûr, mais elle a une démographie assez galopante.
Exactement.
Les jeunes ont besoin d'espace, ils veulent développer le tourisme, les loisirs, l'agriculture et
tout.
Parlez-nous un petit peu de vos projets. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Quelque chose, mis à part le centre pour autistes qui est à l'honneur d'Amenaïd, une réalisation phare qui vous tient à cœur?
Déjà, c'est le premier, bien sûr, on a un attachement sentimental à ce projet-là, parce qu'il y a eu des gens de Naftal, il y a eu des gens de Sonatrach, du MDN, qui sont venus, parce qu'il faut creuser dans notre système, il est sous terre, vous le voyez pas, tout est sous terre.
La formule secrète.
Mais bien sûr. Et donc, ils ont creusé.
Vous voulez rester seul.
Non. On voulait démontrer aux responsables qu'il y a quelque chose qui est original. Et il fallait qu'ils mettent la main à la pâte. Donc ils sont venus. Mais on a d'autres projets, bien sûr, dans le sud. Par exemple, Ihrir.
Ah.
Ihrir, c'est un village qui est
magnifique.
entre Ilizi, à 260 km de Ilizi. entre Hérir et Jabal. Oui. Exactement. C'est une zone Ramsar, c'est-à-dire que une zone humide protégée. Il fallait mettre en place une station. Et d'ailleurs, il était prévu de mettre une station Hérir centrale.
Il y a quand même un petit lac.
Un grand lac.
Et pour l'avoir visité, ça fait peut-être une trentaine d'années, il y avait même l'un des derniers crocodiles d'Algérie.
Il y a encore des poissons. Bien sûr.
Dans la vallée des Hérir.
Exactement.
Et donc, plus de pratiquement 1500 km de la Méditerranée.
Tout à fait. Et donc, il était prévu de mettre en place une station en plein centre de Hérir. Malheureusement, elle était en plein sur le lead web. Donc, quand il y a des crues, c'est clair qu'elle. Mais nous, on a refusé de faire ça. Et avec 5 rejets, nous avons mis 5 petites stations.
À toujours la même technique.
Toujours.
Aller à la source et se clamper.
Se brancher. Il y avait des fosses septiques. Nous, la première phase de traitement, c'est la fosse septique. On s'est branché à la fosse septique. Il y avait 5 fosses septiques. On s'est branché aux fosses septiques. Tout simplement. Et puis, les eaux sont récupérées et sont rejetées dans le lac. Mais elles sont traitées à 99%. C'est quelque chose que la population attendait depuis 25 ans, quelque chose comme ça. C'était au ministère des ressources en eau. À l'époque, le secrétaire général, il me dit, on a toujours des problèmes avec l'UNESCO, avec les responsables
des Nations Unies.
Allez-y voir pour régler ce problème-là. On l'a réglé avec la moitié du budget prévu pour la station.
La moitié du budget,
en 4 mois. Donc, ça a été réglé. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur parce que...
Il date de
2021.
Ah, c'est quand même 5 ans.
Oui.
Elle est toujours fonctionnelle.
Bien sûr. Même s'il y a des crues, même s'il y a des tempêtes. Elles sont toujours fonctionnelles.
On va éviter ce qui s'est passé dernièrement à Msila.
Par exemple. Ouais.
Parce que à l'aune des bouleversements climatiques, où il ne pleut pas pendant 3, 4, 5 ans, et puis après, pendant 3 heures, vous avez l'équivalent de...
Exactement.
C'est quand même formidable. Monsieur Kouadri, alors, il vous fait un petit peu de concurrence déloyale, parce qu'il arrive à fonctionner hors réseau, mais sans énergie.
Exactement. Donc là, on va avoir de moins en moins de demandes sur l'énergie.
Mais vous allez pouvoir vous rattraper.
Au contraire, on aura toujours besoin de l'énergie.
Il faut
optimiser l'utilisation. Plus M. Kouadri utilise l'énergie solaire, plus on va consommer moins de gaz. Donc on va vendre plus de gaz.
Exact. Et avoir des devises pour les générations futures.
Exactement. Donc au contraire, il faut faire appel.
D'ailleurs, on dit toujours que les énergies renouvelables vont de pair avec la maîtrise de l'énergie, avec l'efficacité énergétique. Donc là, on va dire, c'est là, le premier gisement de l'énergie, c'est l'économie de l'énergie.
Alors voilà, il va y avoir des élections législatives le 2 juillet, il va y avoir une campagne, peut-être qu'on va en parler, je ne sais pas, les partis politiques, est-ce que ça les intéresse ou pas. Mais moi, je sais qu'en Algérie, il y a un fabuleux projet, celui de rallier Adrar à partir de l'Arouat pour aller jusqu'à Tamanrasset. Rasset, c'est quand même fabuleux. Tout au long de cet itinéraire, on va prendre juste un axe, Insalah, Tamrasset. Il y a 6 stations d'épuration qui sont existantes.
Station de pompage.
Station de pompage. Et mais il n'y a pas de station d'épuration. Donc, on utilise de l'eau qui est plus ou moins épurée. Mais est-ce que, à partir de ces centres de vie, on pourrait développer à partir de ces stations de pompage, on peut développer des centres de vie, des petits villages, des villes. Oui, il y a de l'eau qui nous vient de l'intercalaire Albia Ain Salah, qui va jusqu'à Tamanrasset, mais ça fait 740 kilomètres. On peut placer des villes intermédiaires entre Ain Salah et Tamanrasset avec du solaire et
est-ce que vous aimeriez, vous, vivre dans une station de pompage tout seul comme ça dans le désert? Non.
Non, mais il faut donc de la compagnie.
Exactement.
Oui.
Et donc pour cela, il faut des plantes, il faut des fleurs.
Il faut créer de la vie.
Il faut une boulangerie, il faut créer de la vie. Et pour créer de la vie, on a de l'eau, on a de l'énergie solaire. Il suffit juste d'arranger un petit peu les choses et ça ira très bien.
Moi, j'ai envie de dire, c'est le 13 mai, journée mondiale de l'ingénierie pour l'avenir. Nos aïeux, nos ancêtres, ont créé des centres de vie à travers un système oasien qui est toujours durable. Quand on va à Tamantait et qu'on voit ce qu'il y a, quand on voit dans les ressources, c'était bien avant toute l'ingénierie connue à travers les ordinateurs, l'intelligence artificielle. Notre génération, ou la vôtre, qu'est-ce qu'elle va faire en termes d'ingénierie pour l'Algérie, pour le pays le plus vaste d'Afrique? C'est possible de développer l'ATS, Insalah Tamarasset, avec du photovoltaïque, du solaire photovoltaïque et des stations d'épuration?
Ben, c'est évident.
C'est évident.
Même, regardez, là, ça
on va interpeller les partis politiques au temps zéro, tant la campagne sera
ouverte. Même le problème de stockage de l'énergie solaire, c'est ça le principal handicap.
Bien sûr.
Ben, aujourd'hui, si vous regardez en Finlande, ils ont inventé un système avec du sable. Avec du sable.
Du sable.
Pour stocker la chaleur pour la période de nuit, parce que la nuit, il n'y a pas de... Ben, ils ont inventé un système. Il est basique, ce système. Vraiment basique. Hein. Donc, stocker l'énergie solaire, il y a maintenant des solutions. Produire de l'énergie solaire, il y a des solutions. En plus, le CDER, il a même des solutions pour traiter... Vous voyez notre station d'épuration, l'eau est traitée à 80%, mais il reste 1%.
Bien sûr.
Ils ont même des solutions pour traiter l'eau à 100%.
Traitement tertiaire.
Exactement.
Votre réaction, on peut stocker de l'énergie, avec seulement du sable. L'Algérie dispose du pays le plus vaste d'Afrique, du Sahara le plus vaste, j'allais dire, au monde. Dans ce Sahara, il y a du sable, il y a du soleil. Il y a une équation très simple à résoudre pour vous, M. Ouadri.
Oui, absolument. On va dire, comme je disais au départ, on va dire, le point le plus important, c'est l'eau. L'eau existe, le reste, on va dire, l'ingénierie et l'intelligence humaine, elle peut se débrouiller pour le reste.
Et au sud, l'intercalaire albien, c'est le réservoir d'eau douce souterraine le plus gros, plus important au monde, avec 60 000 milliards de mètres cubes d'eau.
Absolument. Absolument.
Et donc, il y a tous les ingrédients pour que l'on puisse mettre cap vers le sud. Il ne suffit pas de lancer des projets qui sont très importants, qui sont structurants, mais il faut accompagner cette ligne de chemin de fer avec des projets de ville ou de gros villages où il fait bon d'y vivre, Monsieur Ouadri.
Absolument. Déjà, les localités, on va dire, les tribus qui existent dans le désert depuis des centaines et des milliers d'années,
qui sont acclimatés.
Exactement. Avec beaucoup moins de technologies et d'apport de solutions, on va dire, innovantes.
Donc, mais de l'ingéniosité quand même.
Absolument. Absolument. Donc, ils ont réussi à vivre, à créer toutes les conditions de vie. Et ils ont perduré dans ces conditions-là des milliers d'années. Donc, aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, avec toutes les solutions...
Cette ingénierie.
C'est, on voit partout dans le monde des endroits qui étaient complètement désertiques et ils sont devenus un paradis. Donc,
comment organiser tout cela? Il va y avoir des projets structurants. Garage Billet, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a Bled El Hadba à l'est. Il va y avoir la ligne Adrar qui va commencer à partir de le Rouad jusqu'à Tamanrasset. Il va y avoir des bases-vie, c'est bien, mais est-ce que les bases-vie doivent ou peuvent, ou est-ce qu'il y a une réflexion pour pouvoir planifier justement des centres de vie? C'est techniquement, c'est possible.
Bien
l'ingénierie
sûr.
S'y prête.
Bien sûr,
il y a
bien
ce
sûr.
Qu'il faut.
Il y a plein d'institutions de l'État qui réfléchissent.
Travaille là-dessus.
Oui, l'Institut national des études stratégiques travaille global, dessus.
Ouais.
Oui, global travaille dessus. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Le CDER, il a des solutions pour ça. Donc, c'est une question de regrouper l'information et d'échanger l'information, que chacun s'occupe de sa partie correctement. Et puis, on rassemble le tout, ça nous donne quand même une solution. Ce n'est pas forcément des bases-vies, ça va devenir des petites villes.
Et si je peux ajouter une chose, on va dire le débat n'est même pas sur est-ce que c'est faisable. C'est indiscutable que c'est faisable.
Dire, là, c'est tranché.
Exactement. Donc, il suffit juste d'avoir, la volonté de le faire. Et je pense que l'Algérie aujourd'hui a grandement besoin de faire ça, parce que quand on parle de Rajbilet, c'est un pas de géant qui est fait mais pas uniquement pour le gisement de fer, parce que justement l'objectif qu'on doit atteindre, c'est de créer cette, on va dire, de créer cette vie dans tout le tracé de chemin de fer. Et là, ça va engendrer une transformation radicale du pays. Je ne parle pas uniquement de Tindouf, comme vous avez dit, de Ain Salah à Tamarasset. Donc, parce que un des problèmes de l'Algérie, l'Algérie, c'est vrai que c'est le plus grand pays d'Afrique. C'est un continent avec sous-peuplé, si je peux dire. C'est-à-dire,
oui, si on regarde, par rapport, oui.
Exactement. Si on regarde la surface,
il y a du potentiel.
Avec le nombre d'habitants, donc c'est peu. Et c'est très déséquilibré. Très déséquilibré.
Vous parlez de la densité, nombre d'habitants par kilomètre carré par rapport le nord, les hauts plateaux et le sud.
Absolument. Parce que là, en créant des nouveaux centres de vie, de villes que, après des décennies, vont se transformer, espérons-le, dans des grandes, on va dire, agglomérations et des grandes villes, c'est ça qui va vraiment faire démarrer une activité économique, sociétale, donc créer vie dans tous les sens dans le sud algérien, parce que faut savoir, on parle de coûts de transport de l'énergie en Algérie. C'est un problème, c'est un très grand problème, parce que transporter, le problème c'est que vous avez un village de quelques centaines, quelques milliers d'habitants, qui est à des centaines de kilomètres de la localité la plus proche. Ça a un coût, mais si on a, au lieu de quelques milliers, on a des dizaines, des centaines de milliers, là, le coût devient pas la même chose. Et si on crée dans tout le chemin, on va dire, des localités, d'autres, donc là, ça va alléger l'infrastructure, ça va alléger la logistique, ça va créer des centres de vie, ça va créer une activité économique qui va se répercuter sur la croissance carrément de PIB national.
Et le fait de, j'allais dire, de semer des villages, des centres de vie, des villes à travers l'Ats et Salah Tamarasset permettra de développer, entre autres et encore plus, l'agriculture s'il y a de l'énergie, il y a de l'eau et de l'assainissement.
Nous, on regarde toujours les choses depuis notre fenêtre, disons, entre guillemets. Ouais. Regardez-le si vous étiez, vous, un Nigérien ou un Malien ou un Burkinabé. Qu'est-ce qu'il pense de l'Algérie? Pour lui, l'Algérie, c'est comme nous, on pensait de, je sais pas, de la Norvège ou... Vous comprenez?
C'est
et donc
le point de vue est différent. Ou l'angle,
c'est clair.
Plutôt.
C'est clair.
C'est un prisme qui est parfois déformé.
On a reçu plusieurs fois des étrangers, des délégations étrangères dans le sud ou même en Algérie, dans le nord. Tel qui met le sud, les Africains, ils nous disent, vous avez fait des grands pas en avant. Vous voyez, donc. Tôt ou tard, on sera obligé quand même de mettre en place ces infrastructures, parce que on doit répondre à ce besoin aussi africain, que ce soit dans un sens, c'est-à-dire nous, on vend des produits et des solutions, ou dans l'autre sens. Je vous donne un exemple, je sors de tout ce qu'on...
Ouais.
La médecine, par exemple. Est-ce que vous savez que les Africains, ils ne pensent qu'à une seule chose quand ils veulent se soigner? C'est de venir en Algérie se soigner. Pourquoi? Parce qu'il y a les hôpitaux, il y a les cliniques maintenant.
Et c'est gratuit.
Un Africain qui a un petit peu les moyens, il a identifié sa maladie, il va se dire, je vais aller en France, ça va me coûter tant. Ou en Italie, ou en Espagne. Qu'est-ce que ça coûterait en Algérie? Un dixième. Vous comprenez? Il sait que le niveau de technique, entre guillemets, en Algérie, il est aussi bon en Tunisie ou au Maroc ou
en
autre pays.
La preuve, on admet au plus haut niveau.
Exactement.
D'un pays qui est en
et
face,
donc,
les milliers de médecins qui sont installés dans les
que l'on veuille ou pas, nous, les Algériens, on est obligés de s'organiser pour échanger avec ces pays-là.
Peut-être une des questions, il reste deux minutes, mais dit-on derrière la vitre, l'ingénierie de l'avenir, comme outil d'aide à la décision, devrait installer à quel niveau? Qui doit piloter tous ces projets, fédérer les efforts? Quelle serait la structure? Vous avez parlé de l'Institut national d'études de stratégie globale, mais il faut qu'il y ait un peu plus de coordination peut-être.
Oui. À l'époque, quand j'étais jeune, on entendait parler d'un ministère du plan.
Ministère du plan. Ouais, il faut planifier tout cela. Mais bien il faut sûr. Reprendre peut-être la Parce planification que... pour permettre de disséminer et les stations petites d'épuration, mais aussi les stations solaires photovoltaïques, surtout qu'elles sont mobiles. La mobilité demande la planification, M. Ouattari.
Absolument, absolument. On va dire, là, c'est l'ingénierie, c'est de donner des solutions à des problématiques qui doivent être identifiées bien avant et planifiées.
Alors, on va reprendre cette émission peut-être durant les législatives et on va terminer l'émission dans quelques secondes en rappelant M. Habib Merabet d'Enviro Step, environnement Step pour station d'épuration, et Amine Kouaderi qui est premier responsable ER2 mercredi prochain, Inch'Allah.
Inch'Allah. Merci.
Merci.